La violence de l'étonnement peut révolutionner notre vision du monde et de nous-mêmes en remettant tout en question.
Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité.
La vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle n'est pas dans faire beaucoup de choses, s'agiter, avoir sa Rolex à 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie, elle n'est pas là. C'est ce que nous disent les poètes depuis toujours.
On oublie qu'émerveillement ne signifie pas naïveté.
L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes.
Nous sommes Pierre-Hugo Laplace et nous souhaitons la bienvenue sur notre podcast autoproduit pour Tract et Since Nothing. Au fil des épisodes, nous allons à la rencontre d'artistes, scientifiques, philosophes ou citoyens qui, par leurs travaux ou leurs réflexions, développent des discours alternatifs ou subversifs, c'est-à-dire en rupture avec nos imaginaires sociétaux actuels. Ensemble, nous déconstruisons les évidences qui nous empêchent trop souvent de percevoir l'étrangeté de notre quotidien. Quand bien même qu'il soit joyeux, dangereux, mélancolique ou amoureux, l'émerveillement a mille facettes qui n'attendent qu'à être embrassé. Nous tenons à préciser que nous basons au maximum nos entretiens sur la base de discours validés scientifiquement, rationnels ou basés sur un argumentaire solide au plus proche du réel et des faits, au-delà de nos simples interprétations, afin de valider ou non certaines hypothèses et ainsi nous doter d'une nouvelle grille de lecture fiable de notre environnement. Comment le travail d'artiste engagé permet de véhiculer des messages importants, même de façon détournée, au sein de l'espace sociétal? Que ce soit sur des stickers, des t-shirts, des affiches, des dispositifs de scénographie ou même des cartes postales, notre invité du jour, Anaïs, alias Boutkartal, y imagine des univers graphiques pop et flashy, oscillant aussi bien entre questions d'empowerment, de la valorisation des femmes artistes iconiques, ou encore de la place des chiens dans l'espace public. Vous l'avez compris, le temps de cet épisode avec Anaïs, également fondatrice de l'association OSBLC qui promeut la lutte contre les discriminations dans les pratiques actuelles de la musique, nous avons discuté de féministes, de graphistes et comment elle lutte contre le patriarcat à travers son travail. Salut Anaïs.
Bonjour.
Salut. Eh ben, merci d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait extrêmement plaisir.
Merci à vous, c'est chouette.
Pour commencer, justement, ça va peut-être aussi un peu servir de présentation. Et avant de commencer, on va dire un peu dans le dur du sujet, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, notamment dans l'illustration?
Ouais, pas de souci. Moi, du coup, je dessinais pas mal. Je faisais quand même partie des gens qui se faisaient bien chier en cours de philo, donc à l'intérieur de la double page, qui dessinait pas mal. Mais bon, ça fait pas de moi une illustratrice, mais c'est un peu l'ennui scolaire, on va dire. Qui a fait que j'ai commencé de pas mal dessiner, apparemment la philo, donc je sais pas pourquoi. Tout ça fait que je suis partie sur ce qu'on appelait à l'époque des DUT, services et réseaux de com, c'était un peu les DUT, on va dire, tu veux aller dans le numérique, c'est un peu à la mode, parce que du coup, moi, je suis née dans les années 90, ce qui fait pas de moi encore une vieille personne, ça va. Mais donc du coup, ouais, je suis partie sur quelque chose où j'apprenais de la com, du marketing, du code, cette magnifique époque du flash où je me disais, tiens, c'est rigolo quand même de faire du code et du dessin en même temps. Voilà, où j'ai découvert à cette époque-là le site internet d'Annie Cordy en flash. Donc non, c'est pas ça qui a fait de moi une illustratrice, mais bref, c'est un peu des débuts scolaires, on va dire plutôt. Et à un moment, une petite stagnation, que c'était pas assez graphique pour moi, c'était très branché, plus multimédia, et mots qu'on ne dit plus en 2026. Et du coup, je suis plutôt allée dans des études de médiation culturelle, et à la fin de mes études de médiation culturelle, tout le monde était un petit peu en train de me dire « Hey, mais t'es sûre, c'est un peu l'entrée vers le chômage ?» Moi, j'étais là « Non, non, t'inquiète, je gère !» Bah en fait, même si tu gères, en fait, quand tu arrives à la fin de ton master, après une demi-année passée au Canada, où là, du coup, j'ai pas mal traîné dans... j'étais à l'UQAM, mais j'ai pas mal traîné avec des gens qui étaient plutôt en archi, plutôt en illus. J'ai découvert aussi des collectifs qui s'appelaient l'école de la Montagne Rouge, parce que c'était une époque où il y avait tout un mouvement social autour de l'augmentation des frais de scolarité québécois pour s'aligner sur les Américains, pour que ce soit aussi qualitatif. Donc j'ai beaucoup connu aussi les années de manif enfin une demi-année de manif en tout cas au Canada, et tous les cours étaient suspendus sauf les cours d'art graphique. Donc du coup, moi j'ai squatté un peu ces cours-là, donc c'était un peu drôle parce que j'avais des profs qui me disaient « Eh Anaïs, où il en est ton projet ?» alors que j'étais pas du tout dans leurs cours. Et après, quand je suis retournée, en France, oui, la médiation culturelle, c'est génial, mais oui, il n'y a pas de travail. Donc du coup, j'ai refait derrière un bachelor de directrice artistique où j'étais la plus nulle de la classe vu que j'étais la vieille, mais la vieille à 3 ans près. Et j'ai fini par être dans les prompts de la classe, on va dire, en développant un peu ma patte à ce moment-là. Donc c'était plutôt du très noir et blanc, très graphique, avec beaucoup, beaucoup de détails. À cette époque-là, je ne savais pas que Procreate allait mon iPad et mon Procreate allaient être mes objets préférés, puisque ça n'existait pas, et j'étais sur une vieille tablette bambou moche, que j'ai encore. Et voilà, je crois que j'ai un peu démarré. Alors moi, j'étais plus sur j'ai commencé à dessiner plutôt au Canada, et après, quand je suis revenue en France, je crois que les 2 jours après où je suis revenue, il y a un label de musique pour lequel j'avais été en stage qui m'a appelé, qui m'a dit « Ouais, on a une demi-journée pour faire une pochette pour un artiste pour 500 balles, ça te dit ?» Et j'étais là « Ouais, ok, nous on est le soir, donc ça veut dire qu'il faut travailler la nuit ?» Il fait « Oui !» Ok, d'accord. Donc j'ai un peu fait ça, des pochettes, parce que je faisais ça un peu, vu que je voulais bosser dans la musique. Du coup, j'avais commencé à faire des pochettes aussi pour des artistes plutôt indés, et pas trop de l'illus au début, et petit à petit de l'illus, quoi. Donc voilà, à peu près en très résumé l'intro à l'illustration.
Et ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ça qui nous a aussi intéressé quand on regarde ton travail, c'est que aujourd'hui, tu as une démarche qui est assez engagée et militante. Donc tu mets pas mal de graphisme au service de tes convictions. Et comment ça s'est construit, ça aussi, depuis quand tu as cette démarche ?
Je suis une personne qui est relativement fâchée dans la vie. Parce qu'il se passe actuellement, mais tu vois, par exemple, rien que le fait, quand tu parles de Montréal et de ces manifestations, j'y allais pas, mais je les regardais un peu fascinée, quoi, de me dire, putain, ouais. Ces jeunes-là, effectivement, ils payent déjà leurs années, genre 3000, 4000 balles en faisant des jobs à côté. Il y a des systèmes de bourse où ils font la queue et en fait, ils sont reçus au premier arrivé, premier servi. J'étais vachement loin de ça à l'époque. Et quand je suis arrivée en France, du coup, j'ai vu pas mal de choses. Alors, je bossais en salle de concert, j'étais chargée de com et graphiste parce que c'était pratique dans la fonction publique à l'époque de prendre 2 jobs et d'en payer pour un seul. Je suis arrivée sur des conditions aussi pour, par exemple, les artistes femmes et les personnes de minorité de genre, donc les personnes non binaires, les artistes trans, où il n'y avait pas de place. Les chiffres, du coup, t'as le baromètre du CNM qui sort tous les 3 ans sur. Je regarde tout le temps les stats, en fait, de présence, par exemple, des femmes ou des personnes de minorité de genre. Le handicap, la France a du mal. Pareil, là, on en vient à peine à revenir sur les questions de représentation des personnes issues de l'immigration, donc les personnes racisées. Donc, je sais que le mot, il plaît pas à tout le monde, mais pour le moment, on n'a que ça. Et qu'en fait, comme en France, il n'y a pas le droit de faire des statistiques qu'on appelle ethniques, du coup, en fait, on est complètement absent du débat par rapport à d'autres pays sur la représentation des personnes, quoi. Donc du coup, ça a commencé de me chauffer un peu et de m'énerver un peu. Je suis passée pour la relou de service au travail parce que du coup, moi, j'étais limite misandre à mettre des plateaux que de femmes et de personnes de minorité de genre. Je bossais à l'époque pour une mairie de droite, donc du coup, je planquais un peu dans les bios que les artistes étaient trans pour qu'ils puissent jouer. Mais en fait, ça valait quand même le coup de l'écrire parce que ça permettait à des gens de se sentir représentés. Ouais. Donc ça a un peu démarré comme ça, et quand je suis, donc du coup ça c'est quand je travaille en salle de concert, j'ai vécu le Covid, donc comme dans toutes les salles de concert, j'ai pété mon câble, et parce que la musique c'était un loisir, c'était de la distraction, ça avait plus la valeur que ça, la valeur pour la France, la culture, pendant le Covid. Donc du coup je suis retournée à Clermont, et j'ai atterri en fait dans un tiers-lieu queer et féministe, qui travaille sur ces questions-là, mais au point de vue de l'alimentation, au point de vue de l'agriculture, du point de vue aussi de la culture. Alors moi, j'étais plus spé du coup culture, et c'est vrai que c'est à ce moment-là que du coup j'ai été un peu plus éveillée à donc du coup des ouvrages type Bell Hooks que j'ai jamais terminé pour être honnête, mais donc, j'ai quand même été entourée que de personnes qui vivaient des discriminations, qui se sentaient pas inclus, parce qu'à cette époque-là, du coup, maintenant l'inclusion c'est presque has-been parce que c'est les mairies qui le récupent. Mais déjà, c'est la honte de dire intégration, parce que ça, on le réserve plutôt aux personnes issues de l'immigration. Mais du coup, on est sur purement de l'inclusion qui, moi, à mon sens, il y a 5-6 ans, là où je bossais, c'était plutôt un terme un peu nouveau de comment faire pour que les gens se sentent bien et comment nous, on s'adapte pour qu'ils se sentent bien. Et c'est là aussi que j'ai commencé à devoir faire un peu du graphisme et de l'illus pour des projets de taf, mais jusqu'ici, j'avais toujours bien éteint mes projets perso. Je les ai jamais trop mis en avant parce que je faisais partie des gens qui avaient peur de se lancer en indé, et que j'ai toujours peur d'ailleurs de me lancer en indé. Bon, ça s'arrange pas en plus, donc ça donne pas envie. Mais voilà, je pense que c'est passé par des expériences personnelles et professionnelles qui ont fait que je me suis mis à... Après, je fais un peu gaffe à dire aussi sur les démarches militantes, parce que je suis pas très coup de poing, quoi. Je suis pas hashtag, il y a des illustrateurs qui vont de manière beaucoup plus vénère. Moi, j'ai un peu un souci avec la charge mentale que ça représente aussi.
Ouais, mais tu vois, même quand tu disais dans ton ancien travail que tu cachais un peu les bios des artistes pour quand même qu'ils puissent jouer, etc., tu vois, il y a quand même une forme de résistance. Ça fait porter aussi un peu une forme de militantisme. C'était déjà cool, même à ton échelle, quoi.
Bah, c'est surtout que tu passes toujours pour la voile du village, quoi. Même aujourd'hui, on se dit, bon, maintenant... De toute façon, c'est dans les prérogatives européennes de parler de questions de genre et plus de questions de sexe. Mais encore aujourd'hui au boulot, ben, je suis avec des personnes issues d'une autre génération, plutôt du féminisme époque ACT UP, où ben, la question des personnes non-binaires, ben, on ne se la posait pas et on ne veut pas se la poser. Donc du coup, c'est vrai que ça pose un peu souci aussi pour moi, quoi. Et tu passes toujours pour la folle au village, quoi. Ça change pas, ça.
Après, tu disais, au niveau de ta démarche, t'as quand même des messages qui sont... Alors peut-être que toi, tu as les juger peut-être moins fort que d'autres, mais notamment sur tes t-shirts et des affiches où tu affiches Misandry Club, c'est quand même des textes qui sont assez percutants.
Bah, j'invite un peu les gens à lire comme le bouquin de Pauline Armange, « Moi, je déteste les hommes », que je prête à tous mes potes mecs cisgenre. Parce que du coup, le titre, il fait peur. Il y a beaucoup de mecs qui lui sont tombés dessus pour ça. Alors qu'on sait très bien que dans le milieu de l'édition, ben, du coup, on te demande d'avoir un titre un peu vénère pour qu'on puisse venir te lire, ou qui au moins soit percutant, comme tu dis. Et c'est vrai que la misandrie, du coup, c'est intéressant d'avoir cette discussion avec des mecs qui disent « Ouais, mais ça sert à rien, puisque du coup, tu imprimes des trucs où c'est l'inverse de la misogynie. » Alors qu'en fait, tu leur dis « Ouais, mais en fait, c'est pas du tout la même chose, parce que la misogynie, c'est toute la journée. » La misandrie, c'est un système qu'on met en place de temps en temps pour sortir la tête du trou et se dire que, en tant que femme, eh ben, du coup, on a le droit de détester le patriarcat et la façon dont les mecs agissent. Et c'est pas les hommes qu'on déteste en soi, alors que la misogynie, il y a une forme de détestation un peu ancestrale des capacités des femmes à faire des choses, quoi.
Oui, et puis en plus, c'est sûr que si la misandrie, la misogynie peut... C'est difficilement comparable parce que, en plus, la misogynie tue contrairement à la misandrie. Et la misogynie, ça repose vraiment en plus sur quelque chose qui est systémique, qui n'est pas le cas de la misandrie, quoi.
Oui, et puis surtout que, comme elle est très inhibée, bah, les gens, tu leur dis là, c'est misogyne. Une fois, ah non, pas du tout, je suis pas du tout misogyne. Et puis, ils sont atteints dans leur éducation. Souvent, les mecs, ça remonte à comment leur mère les a éduqués. Tu es là, mais je critique pas ta mère, hein, je critique juste que tu as fait de l'éducation de ta mère. Hein, ou ton père d'ailleurs, parce que ce serait bien que ton père il ait aussi un questionnement là-dessus, ou alors des familles monoparentales ou des familles issues des familles queer, quoi.
Et justement, d'utiliser un mot comme ça, bah, comme tu le fais, misandrie, est-ce que pour toi c'est un peu comme une réponse, notamment aux discours masculinistes qui sont de plus en plus présents et virulents en ce moment, ou pas forcément?
Ah bah, je suis pas fan des discours masculinistes, c'est clair, mais j'avais même des stickers qui étaient et masculinistes, que tu pouvais mettre sur ton vélo, et je me suis fait crever mes pneus systématiquement pendant un an. Donc du coup, j'ai un peu donné le cadre de vélo à une asso. Et j'ai fait, bon, ben voilà, parfois mon militantisme s'éteint parce que putain, je peux plus aller au travail, quoi, vous faites chier. Donc voilà, c'est pareil, les stickers misandrés, quand je les vends, j'ai dit surtout ne les mettez pas à l'arrière de votre voiture.
Ah, mais c'est en fait, l'anecdote que tu racontes, c'est quand même assez. Enfin, tu te rends vraiment compte un peu du.
Ça témoigne comme d'une violence, quoi.
Bah, c'est pour ça, c'est ce que je disais, c'est que pour moi, l'analyse que j'en fais, c'est que ça fait quand même écho à je ne conviens pas à la société. Et en fait, c'est des gens, typiquement les. Désolé pour vous, les mecs. Mais on n'a pas l'habitude de les renvoyer à leur éducation, puisque la société les construite pour que ce soit agréable pour eux, puisqu'ils sont à des postes de pouvoir et de décision, quoi. Donc c'est pareil, là j'ai un sticker, c'est « Pay me like a white dude », et j'ai beaucoup de copines qui le mettent sur leur ordi de taf, parce que, par exemple, quand il y a une discussion avec des RH, elles disent « Bon, bah je regarde mon sticker et je me dis « Allez, c'est bon, j'y vais cette fois, quoi ». Je négocie mieux mon salaire. Et ou alors, ça les fait marrer en réunion, quand tu sais que tu vas au réu avec des mecs un peu vénères, parce qu'il est tellement chargé de paillettes que faut vraiment poser les yeux dessus pour savoir ce qui est écrit, quoi. Parce qu'il ne faut pas non plus que les gens, je parle de mon anecdote de vélo, mais le but, ce n'est pas de mettre en danger les gens en mode « tapez-moi, je suis féministe », quoi.
Ouais, mais c'est aussi, voilà, c'est de faire passer un message, et puis... Tu sais que c'est intéressant aussi, cette démarche-là, que ce soit pas forcément lisible au premier regard, mais celui qui prend la peine de regarder, il peut aussi trouver un message, quoi.
Ouais, après, ça reste un sticker, c'est pas non plus l'objet... Ce qui me fait rire, moi, c'est par exemple les t-shirts, c'est écrit en énorme dessus, t'as Xena la guerrière, donc vu que je suis née un peu, je suis une personne des années 2000, ben, je mets pas mal de refs de... personnage aussi qui était un peu badass dans les années 2000, et il faut forcer de constater qu'à chaque fois que je cherche des personnes racisées, bah, à part Jackie Brown et Phénomène Raven, je galère, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'icônes à cette époque-là, et en fait ça me fait rire parce que le graphisme il a un peu emprunté à la gravure, mais ça je pense que ça vient du truc Procreate, style graphique que je prends. Et du coup, il y a plein de mecs, moi ce qui me fait rire, c'est venant de la musique où j'étais en guerre contre les techniciens pour toutes les rengaines masculinistes qu'ils pouvaient avoir, bah, des fois quand je vais sur des festivals, c'est des techs-sons, des techs plateaux, des techs lumières qui viennent me les acheter, je fais mais les gars, vous savez lire ou ça va? mais du coup, bon, je me dis c'est marrant, ils sont contents, ils ont leur t-shirt, peut-être un jour ils iront regarder ce que ça veut dire. Ou alors ils savent et puis ils se disent on est des alliés parce que des féministes aussi comme ça parce que on a été des ordures avant ou je sais pas, ça me fait rire à chaque fois.
Ouais, mais il y a ça qui est cool aussi justement de mêler ces messages là avec tout cet aspect graphique, c'est que en fait il y a aussi l'aspect graphique qui peut attirer avant le message et du coup c'est aussi ça qui permet de faire véhiculer le message même si certaines personnes s'en rendent pas compte, quoi. Et ça c'est quand même, c'est stylé aussi du coup comme démarche, quoi.
Bah, j'imagine que oui, la personne qui ne sait pas ce qu'il y a écrit et qu'il y a quelqu'un qui lui pose la question, bah, il est bien content de le savoir après, ou alors il donne le t-shirt à l'autre personne. J'espère.
Mais pour revenir aussi un peu à ton anecdote de vélo, c'est vrai que on avait regardé il y a pas longtemps une une série, c'est un documentaire qui était sur la plateforme de France TV, mais qui a été faite au Canada par un producteur québécois, et justement qui sur tout le discours masculiniste. Et j'avais vu une étude après où justement il montrait que en fait t'avais beaucoup d'hommes qui ça les dérangeait du coup cette remise en question du statut dominant du patriarcat, et qui était même à un point de dire qu'aujourd'hui il était par exemple plus facile d'être une femme que d'être un homme dans notre société. Et toi, quand tu racontes bah, justement cette anecdote avec le vélo où il y a cette réaction-là, on sent un peu ce truc-là de dire il y a vraiment un ras-le-bol du féminisme, alors qu'en fait pour de vrai les violences patriarcales sont beaucoup plus c'est systémique, quoi, donc elles sont présentes au quotidien, mais il y a ce truc-là de ouais, aujourd'hui il y en a beaucoup qui pensent que c'est plus facile d'être une femme qu'un homme aujourd'hui.
Bah, après c'est des discours de frustration, en fait c'est le truc que je disais où ça te renvoie à il faudrait que je change quelque chose, je croyais que j'étais un homme parfait. Et t'as une BD qui est pas mal là, qui est sortie en 2025, qui est derrière moi, parce que j'avais jamais prononcé bien le nom de l'auteur, c'est Rouge Signal de Laurie Augustine, donc c'est un roman graphique fait au crayon couleur, où c'est okay. un mec qui est chez lui, qui n'est pas très accompli dans sa vie pro parce qu'il ne discute pas trop avec les autres, et qui regarde du coin de la fenêtre des femmes qui sont dans un salon nail art. Donc il ne sait pas ce qu'elles se disent, mais il les voit. Donc il s'imagine que c'est des connes qui parlent de sujets stupides, alors qu'en fait, les meufs parlent de géopolitique ou d'autres sujets. Et quand il va au boulot, en fait, il se fait monter le bourrichon par ses collègues haut placés, donc forcément pas des gens qui peuvent lui amener une ascension sociale, et qui lui dit « mais en fait, t'as raison, elles doivent être connes ». Et il lui monte le bourrichon, et tu vois qu'en fait, le mec, il en vient à détester ses nanas, et puis je vous donne pas la suite, parce qu'il faut le lire, il est vraiment chouette et il vaut le coup. Le mec, en fait, sa haine, elle vient d'un problème à lui de sa vie sociale. Et c'est là où tu te dis, en fait, il y a un peu une solution quand même à tous ces trucs-là, c'est qu'il y a quand même une forme de mal-être intériorisé de la part des mecs. Et t'as beaucoup de féministes, bah, clairement, c'est le cas, t'as une asso qui propose des cercles de parole pour les mecs qui veulent bien en parler, de là où ils sont en galère, pour éviter des points de frustration. Ou il pourrait devenir vénère et aller se dire « putain, on va aller crever les vélos de toutes les féministes de Clermont ».
Il y a aussi un autre phénomène qu'on peut un peu observer, c'est ce qu'on appelle le backlash, qui est un terme employé par Suzanne Faludi et qui peut être traduit comme un retour en arrière, un retour de bâton. Et après, je ne sais pas si c'est une réponse à cette frustration que tu es en train d'évoquer, mais on voit bien qu'il y a des pays comme aux États-Unis où il y a une remise en cause du droit de l'avortement, et ça montre aussi toute l'emprise du patriarcat au niveau politique. Est-ce que justement pour toi, des fois, ça te, quand tu vois toutes ces mesures là, ça te cause un peu de désespoir ou ça te donne encore plus envie de te battre?
Bah, en fait, moi, j'ai une posture qui a changé, on va dire, en un an aussi, puisque je travaille dans la fonction publique. Et en fait, je me rends compte que plus t'es énervé, moins ça passe. Donc du coup, et plus tu prends le temps, mais ça, je pense que c'est la maturité, ça s'appelle, il paraît. Plus tu prends le temps de divulguer des messages, plus tu prends le temps d'écouter ces messieurs qui sont pas bien... t'arrives un petit peu plus à leur donner en fait les points d'accroche en allant sur leur empathie. Alors moi je fais un peu gaffe parce qu'il y a un bouquin aussi qui est sorti que j'ai pas lu, qui a l'air très chouette, c'est L'empathie poétique du neuroscientifique, que je sais plus le nom.
Ah, c'est Sama Karaki, je crois.
Ouais, il faudrait que je le lise un jour parce que pour le moment j'ai regardé que des vidéos, comme une teenager. Et en fait, du coup, il y a ce truc-là aussi, quand t'atteins des fois un point d'empathie sur certaines personnes haut placées, t'arrives un peu à les faire bouger d'angle aussi, parce que plus je suis dans ces milieux-là, plus je me rends compte que les gens sont guidés par leur avis personnel et leur vécu. Et alors qu'on leur demande plutôt de faire une analyse de terrain et d'agir en fonction de l'analyse de terrain, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et je me rends compte, en fait, que, bah, du coup, ces réponses un peu vénères d'avortement, machin, bah, c'est « ah tiens, elles se sont énervées, on va leur resserrer la vis, et parce qu'elles commencent à gagner, en fait, du terrain, sur ces questions-là. Donc, du coup, t'as l'impression que c'est un peu claqué-caresse, la relation au féminisme. Et je dis pas non plus qu'il faut éteindre tous les discours, faut tout type de revendications, qu'elles soient plutôt en paix ou plutôt énervées. Mais en tout cas, moi, mon endroit, je sens pas un recul et je sens pas et je sens plutôt des avancées parce que ça a l'air de les énerver quand même un peu. Mais bon, faut pas non plus qu'en étant trop énervé, tu sapes les droits que t'as réussi à mettre en place. Mais du coup, c'est un peu dégueulasse parce que ça veut dire que c'est à toi de réfléchir à tout ça, alors que eux, ils réfléchissent pas du tout. Ils disent bon, elles nous font bien chier, hein, on va les éteindre. Donc bon, c'est un peu jouer avec le feu, quoi, des fois.
Moi, il y avait une autre chose que je voulais te poser comme question, et toi qui es concernée en tant que femme par le féminisme, tu pourras peut-être plus nous dire ce que tu ressens. Quand on s'intéresse un peu au féminisme, on voit qu'il y a plein de sous-courants qui existent. Il y a le féminisme matérialiste, le féminisme libéral, le féminisme différentialiste. Est-ce que tu trouves, toi, que tous ces sous-courants enrichissent la définition même du féminisme, ou que ça dessert un peu le combat, qu'on voit que certaines penseuses au sein de ces sous-courants se font un peu la guerre? Toi, est-ce que ça a une réalité concrète sur le terrain ou en fait c'est peut-être plus un débat qui est purement intellectuel et qui n'a pas vraiment en fait de résonance sur le terrain même ?
Franchement, je ne vais pas me prétendre connaître vraiment bien tous les types de féministes qui existent parce que même moi, je ne sais même pas où me mettre en vrai. Et je me fais un peu le comparatif de me dire, bah, par exemple, la scène métal et tous ses sous-courants, du coup, ça crée quand même des groupes et des communautés à l'intérieur qui ont une majorité de valeurs communes, mais des endroits et des points d'accroche sur d'autres. Il y en a certaines, bah, du coup, qui sont trop très alternatives, d'autres qui sont complètement néo-nazis, on est d'accord, hein. Genre, il y a eu toute l'histoire du black metal qui est quand même pas glorieuse au début.
Oui.
Mais je me dis qu'en fait, toutes ces communautés à l'intérieur, elles permettent de représenter quand même plusieurs voix. Donc, celles qui du coup prennent pas des trucs d'extrême droite, please. Mais parce qu'il y en a chez les féministes aussi, hein. Toutes les collectifs type Némésis, c'est en mode
oui.
Femme blanche qui est morte. Oui, bon, bref. Pas parce qu'elle était blanche que les femmes racisées sont beaucoup plus butées que les femmes blanches. Donc on va se calmer. Et du coup, ça renvoie à des échos racistes. Donc moi, par contre, je passe un peu ma vie à les décoller du Némésis quand il y en a à Clermont. Ça, j'aime bien. Ou alors recoller par-dessus mes concerts que j'organise. Ça fait plaisir. mais voilà quoi. Après, je pense que c'est une question qui est intéressante, mais que j'y connais pas assez. Dans toutes les branches du féminisme. Alors, en plus, le féminisme aussi, qui est très essentialiste aussi.
Oui.
Moi, je suis pas hyper fan quand tu parles de sexe et pas de genre. Ils amènent d'autres choses à d'autres endroits. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on discute, on se fâche. Autant qu'on se fâcherait avec des mecs cis, qu'on se fâcherait avec des mecs gays. Pour aller vers un endroit, pour moi, le conflit intra, il n'est pas mauvais, puisqu'il peut amener en fait à des évolutions de pensée. Après, le but, c'est pas d'amener à ce que tout le monde pense comme moi, mais moi, je m'enrichis de ma façon de débattre aussi avec mes pères féministes. Mais c'est vrai qu'après, je vois toutes les branches. Il y en a certaines qui me font un peu flipper quand même, j'avoue.
Bah, Némésis, c'est sûr que c'est peut-être le mauvais exemple. Et après, est-ce que eux... est-ce qu'elles se sentent vraiment féministes ou est-ce qu'elles justement elles utilisent le féminisme pour leur racisme? Enfin, c'est.
Je pense qu'elles se sentent quand même femmes, mais qui vivent des discriminations, sauf qu'elles n'identifient pas lesquelles, quoi. C'est parce que c'est la définition du féminisme, elle est très large aussi, mais elles sont quand même un peu en mixité choisie, donc elles prônent aussi le fait que les violences patriarcales, ça les fane aussi. Mais par contre, c'est vrai que, comme tu dis, si c'est pour devenir raciste derrière, non, là, on n'est pas d'accord.
Mais après, toi, il y a aussi... après, c'est des femmes. Bah, toi, je pensais, je sais pas si tu as vu récemment, il y avait justement la suite à l'affaire de Brigitte Macron qui avait traité de sale conne les militantes de Nous Toutes. Il y avait eu un petit débat entre Emmanuelle Brisson, qui fait partie des Républicains. Alors, elle n'est pas Némésis, mais... Et c'était Ariane Anemonianis de Révolution Permanente. Et Emmanuelle Brisson avait fini le débat en disant de toute façon, le combat féministe aujourd'hui, en gros, n'a plus d'intérêt parce que l'égalité homme-femme est atteinte. Et on voit qu'il y a quand même aussi... Ouais, mais on voit... Elle est particulière parce qu'elle est en position aussi... elle est blanche, son père est sénateur. Elle est en position de... elle a une position aussi de
privilégié.
Voilà, quoi. Ouais. Mais on voit bien que, en fait, chez certaines aussi, en fait, le féminisme ne les concerne pas du tout, quoi.
Bah, en fait, il y a tout une. Moi, j'ai l'impression que c'est un fait générationnel, et puis je le vois pas mal au taf aussi, de personnes, je dirais de femmes à qui on a imposé un modèle de faut pousser pour passer. Donc, si on pousse aussi des femmes, c'est pas grave, parce qu'il faut que je passe pour représenter les femmes. Donc, du coup, t'es là, tu fais pardon, mais la sororité, ça n'existait pas à votre époque. Et du coup, c'est pas un schéma dans lequel moi je me reconnais forcément. J'arrive à me reconnaître dans quelques choses qui peuvent être dites, mais là, l'égalité homme-femme, elle est atteinte, ça va, sa vie, elle a l'air super, hein. Franchement,
elle a une vingtaine d'années, elle.
Ouais, mais du coup, comme tu dis, c'est... Mais en plus, il y a de le dire, c'est tellement politique de le dire, parce qu'il y a des gens, je sais pas, moi, je vois mes parents devant les infos, quand on leur dit tout va bien dans le monde, bah, ils disent, ah, ok, super, comme on l'a dit, c'est bon. Bah oui, mais ça reste quand même de la rhétorique politique. C'est tout. C'est de dire, regardez, j'ai bien fait mon travail. Et c'est hyper rassurant dans un monde où t'as... la guerre en Ukraine, la Palestine et tout ça, d'entendre des good news, ils sont malins quand même. Ils se disent, bon, bah voilà, on a donné une petite pépite sucrée aux gens, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est atteint. Bon, bah allez, super, je vais me coucher, j'ai plus rien à réfléchir. C'est super. Donc, c'est un
ouais,
peu.
Et puis elle, fait, tu vois, quand elle dit ça, en fait, elle se base. Enfin, elle se base pas sur des études qui montrent justement que l'égalité est loin d'être atteinte.
Ouais, c'est juste en sa vie, elle, quoi.
Ouais, c'est ouais,
un commentaire personnel dont on s'en fout, un peu. Enfin, c'est son avis perso, sans avoir de chiffres à l'appui, parce que c'est pas vrai, c'est l'égalité homme-femme, tu regardes les chiffres, je sais pas où est-ce qu'elle regarde, on doit pas regarder au même endroit. Hein.
Et puis, tu vois, c'est comme on parlait tout à l'heure de ce documentaire-là qui était sur France TV, ou qui était aussi sur le masculinisme. Dans le documentaire, il y avait les épouses de certains mascus qui étaient aussi interrogées. Elles étaient tout à fait d'accord avec ce modèle-là, tu vois.
Oui, alors après, il y a aussi une notion de pouvoir et d'emprise. Hein. Si elles sont là où elles sont aujourd'hui, c'est aussi dans toute cette génération-là, il y a beaucoup de femmes qui doivent leur place à des hommes. Donc c'est compliqué de les remettre.
Ouais, c'est clair.
Et le jour où on arrivera à avoir des femmes en place parce qu'elles le doivent à des femmes aussi, bah, c'est pas pour autant qu'elles doivent embrasser tout le patriarcat que les femmes ont. C'est pour ça que tu peux pas aimer une personne en entièreté et le défendre sur tous les endroits. Je sais plus quelle. Si c'est Aaron, c'est une jeune artiste rap qui, à un moment, elle est montée sur scène pour le festival Grunt. Elle a dit checkez vos amis, checkez vos proches et les laissez pas faire de la merde, quoi. C'est bon, alors je pense qu'elle l'a dit de manière beaucoup plus éloquente que moi parce que je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'était dans ton cercle proche. Moi, je l'applique même à ma vie privée. En fait, si j'ai des potes mecs ou qui sont pas corrects avec des nanas ou. Je suis désolée, mais maintenant j'ai plus l'âge de les supporter, quoi. Genre, vraiment, ils se prennent la morale, je les assois, je leur dis, voilà, ça va pas. Cet endroit, comme les interventions qu'il y avait dans Friends, et puis hop, hein. Et puis si tu t'évolues pas là-dessus, j'avoue, j'ai la flemme de t'entendre, juste. Mais bon, je suis un peu direct.
Pour avancer un petit peu, t'as également fondé une association qui s'appelle OSBLC et qui promeut la lutte contre les discriminations dans les pratiques actuelles de la musique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, à la base, OSBLC, c'est une asso que j'ai montée avec Anzou, qui est une rappeuse clermontoise que je manageais il y a 3 ans. Parce que l'asso, elle a 3 ans, elle est toute jeune. On a monté cet asso à la base pour défendre son projet. Son projet, c'est une jeune femme du Puy-en-Velay qui sort un peu de nulle part, azio-descendante, qui vit à Clermont et qui avait très envie à l'époque de parler de lutte contre le patriarcat, qui aujourd'hui va plus aller sur les questions de santé mentale. Et du coup, en fait, on l'a monté ensemble cet asso pour développer son projet. Sauf qu'entre-temps, on s'est un peu pris au jeu de se dire, en fait, dans cet asso, en ce moment, il y a beaucoup d'associations où c'est très peu de gens à l'intérieur parce qu'on sent que l'engagement, ça devient un peu compliqué sur le long terme. Donc, du coup, moi, je travaille plutôt avec elle sur des actions que, un coup, c'est elle qui mène l'action, un coup, c'est moi, on va dire. Donc, du coup, on se partage un peu les choses de cette façon-là et c'est assez acté entre nous. Qu'on va pas aller aux mêmes endroits. Moi, je vais plus aller développer des projets type on organise des jams en mixité choisie avec une autre asso pour les femmes et les personnes de minorité de genre sur Clermont, dans un lieu qui nous héberge depuis 3 ans pour nos actions qui s'appelle le lieu dit. C'est un peu comme la deuxième maison, on va dire, pour le moment. Et en fait, du coup, on peut aussi développer d'autres choses en fonction des appels à projets. On a fait une mixtape aussi sur les violences sexistes avec des artistes du coin qu'on a distribué. Ça nous demande de faire aussi des supports graphiques. Donc ça me fait plaisir aussi de faire ça. On a un compte Instagram sur lequel on peut poster des stats. Alors on est très axé rap à la base, plutôt les esthétiques ou les femmes et personnes de minorité genre se sont le moins représentées ou alors prennent l'esthétique pour la retourner. Je prends l'exemple par exemple du reggaeton. Maintenant, tu as toute l'esthétique néo-péréo où c'est plutôt les femmes qui sont emparées d'un discours ultra sexiste pour le rendre ultra féministe. Et l'idée, en fait, c'est avec cette association, c'est de mener des projets avec des gens. Là, on est allé aussi sur le champ du trouble du neurodéveloppement en montant un projet avec une autre association. Donc l'idée, c'est toujours de rencontrer des gens, de travailler avec eux. On a des gens qui viennent nous aider de manière très ponctuelle, soit quand on organise une date, soit quand on organise un projet qui leur tire à cœur. Parce qu'on a bien conscience aussi que le fait associatif, sur la longueur, c'est un peu rude. Alors que du projet coup par coup, tu as plus de chances d'avoir des gens motivés, impliqués et qui font vraiment les choses à l'endroit où elles ont envie d'aller. Et là, en février, on devrait faire la sortie normalement du titre qu'on a enregistré. Donc du coup, avec cette jeune, le projet, on l'a appelé Studio 2044, comme l'asso s'appelle OSBLC Production 2044 Records, parce qu'à un moment, on voulait fonder un label, mais on l'a jamais fait.
Ok.
Donc c'est la première sortie peut-être de notre label, sait-on. Et en tout cas, l'idée, c'est de faire sur le modèle d'un lieu qui s'appelle l'Axoso en Belgique, une soirée d'écoute, un peu comme les soirées d'écoute à la parisienne ultra branchée. Tu te prends un album de Kanye West, tu fais waouh, ouais, c'est tellement fort. Bah, nous, on renverse un peu le truc en se disant bon, on fait juste une soirée pizza où les jeunes invitent leurs proches et font écouter ce qu'ils ont fait pendant un mois et demi. Quoi.
Et comment c'était venu de créer cette association Parce que toi, t'as déjà été confronté par exemple à la discrimination dans le domaine musical ou...
Bah, quand tu fais 1m50, que t'es une meuf et que tu manages un projet de rap et que tu te retrouves en loge avec que des mecs qui sont là, t'es qui? T'es la maquilleuse, t'es qui, t'es la chanteuse, au bout d'un moment, salut les mecs, non, moi je manage, je fais de la régie, t'en viens limite à être arrogante, mais bon, c'est pas aussi des endroits où on t'attend forcément, moi j'ai une petite passion pour rouler des câbles, pour tout l'univers de la technique, préparer des fiches tech, ce genre de trucs-là que je fais à côté de mon boulot, J'ai hésité pendant quelques temps à retourner me former là-dedans pour faire de la tournée. Okay. J'ai pris un chien entre-temps, je me suis dit, merde, c'est chiant pour la tournée, donc non. Et voilà, c'est aussi, moi, ce que je disais plus tôt, mon parcours dans la musique, où j'étais chargée de com, puis programmatrice, et je suis toujours programmatrice, mais plutôt en freelance, quand il y a des besoins. Et voilà. C'est bien plus aussi de ce que j'ai pu voir dans la musique aussi qui m'a déplu à cet endroit-là, la question du genre. Et plutôt pas que du genre, puisque pareil, là en ce moment, j'aime bien aussi travailler sur les projets de visibilisation des artistes avec on dit handicap mental, trouble du neurodéveloppement, ça c'est plutôt le terme médical. Mais
ce qui est cool aussi, c'est que du coup, ce que tu fais en... notamment en illustration, en graphisme, enfin, l'activité de l'association, ça complète aussi un peu ton engagement, quoi.
Après, j'essaye aussi de. C'est vrai qu'il y a des endroits où je pourrais, j'étais dans un collectif de DJ qui était pas du tout engagé. Et je me suis dit, c'est peut-être cool parce que je voulais apprendre à mixer. Donc j'ai appris, je suis la DJ qui a eu la carrière la plus courte de Clermont, j'ai joué 3 fois, j'ai peur des gens, en fait. Voilà. Donc je ne serai pas artiste. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à tenir dans ce collectif parce que ça manquait d'engagement. Alors que je m'étais dit, c'est un endroit où t'en mets pas, comme ça tu te prends pas la tête. Ça m'a pris la tête de pas me prendre la tête.
Puis ce qui est cool, c'est que comme tu travailles à côté, tous ces projets-là, tu peux les faire à ton rythme et tout. Puis tu peux choisir ce que tu veux faire, etc. Donc ça te permet d'avoir aussi une forme de liberté là-dedans. Quoi.
J'avoue que c'est un peu ma forme de luxe. C'est pour ça que je parlais du fait de me dire est-ce que je me lance en illustratrice à côté. Franchement, j'aimerais vraiment qu'on demande à toutes les illustratrices qui ont 204 followers qu'on le gagne par mois. Et je suis pas prête à faire ce move. J'ai un chien à qui je dois payer des croquettes.
Mais ça rejoint un peu ce que tu disais, Hugo. Je me souviens, dans l'épisode où justement tu étais passé dans Photoshop, tu expliquais que tu acceptais de faire des projets liés au graphisme et gratuitement si le projet te plaît, notamment au regard de tes convictions. Ça rejoint un peu ça, c'est que tu te permets en fait aussi de choisir ce qui t'intéresse. Quoi.
Je peux me le permettre parce que j'ai un boulot à côté. Et je pense que ce serait pas la même chose si je devais remplir le frigo avec uniquement du freelance. J'en ai eu fait du freelance, mais j'étais assez maline pour me trouver des plans à la Thomas Billou où t'as une boîte qui te paye pendant bien et après tu prends des projets à côté. Mais à l'époque, je gagnais bien ma vie. J'étais plutôt dans le make-up. Alors, j'y connaissais okay. rien du tout, donc c'était hyper drôle. Contouring, pour moi, c'était pas du tout faire le contour de ses lèvres. Enfin, je croyais que c'était faire le contour de ses lèvres, alors qu'en fait, non, c'est du fond de teint. Enfin, c'était pas trop dans mes convictions. Je gagnais vachement bien ma vie en freelance parce que je crois que j'étais payée un genre de 2005 brut. À Paris, ça va. À l'époque, ça allait, ouais. mais je pense que c'est pas assez. Mais en tout cas, vu qu'on se fait de plus en plus taxer en tant que freelance. Mais je reviendrai pas pas machine arrière, à part si d'un coup, je sais pas, il y a la déferlante qui me dit tu fais toutes les illustrations du magazine. Je pense que c'est très 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 dur d'être là-dedans et que tu dois te taper au moins 5 ans à pas gagner ta vie et force à celles qui le font quoi.
Et bah, parce que voilà, tu serais, imaginons que tu serais freelance, enfin tu ferais ça à temps plein. Faire des projets, par contre, qui ne rentreraient pas dans tes convictions, ça te rebuterait, quoi.
Bah, je l'ai déjà eu fait. Je pense que j'en ai fait des dessins de roues, de 4x4 Land Rover. Je me demande si j'ai même pas fait une illus pour une marque de PQ un jour. Mais en tout cas, je le faisais avant. Et en fait, ayant bossé en agence de pub aussi, alors... Je vois le retournement de cerveau que ça peut faire et la ouais. page blanche que ça peut provoquer. Parce que mine de rien, c'est quand même des tafs où on demande d'être ultra créatif tout le temps. Avant, il y avait quand même des copies stratégistes. Et j'ai connu des époques où tu as un directeur de création, un directeur artistique, puis un graphiste. Là, c'est l'écrémage. Maintenant, on n'a plus les possibilités de payer autant d'acteurs. Donc, tu es très, très vite rincé. Et je me souhaite pas trop ça.
Parce que toi, quand tu vois justement, enfin, tu parlais de Thomas Billou, juste, enfin, du coup, à l'Amical Graphique, toi, quand tu les vois travailler, ça te donne pas plus envie que ça, du coup, enfin, vraiment de faire ça à temps plein?
Bah, pas trop, parce que je l'ai déjà eu fait et je suis assez à l'aise avec le fait de me dire que ma passion, c'est que je la contrôle presque de A à Z. Je fais quand même beaucoup d'iPad dans mon lit. Je pourrais peut-être ouais. pas toujours faire ça. C'est quand même vachement bien cet outil pour être lazy avec un plaid. Mais il y en a hein, des freelances qui doivent sûrement faire ça. Mais en tout cas, quand je les vois faire tous, je suis très impressionnée par leur volonté de faire que ça marche pour eux. Mais c'est là où ils se sentent bien. Moi, je crois que là où j'ai trouvé un équilibre, c'est le boulot, puis après l'illustration. Mais du coup, je fais... En plus, dans le sens où je travaille aussi avec des gens que j'aime beaucoup, par exemple, pour les t-shirts, je travaille avec Thierry Martin, qui est un graphe textile. C'est un peu le ouais. seul de Clermont. Et en plus de ça, il est très cool. Et on a à peu près les mêmes convictions politiques. On parle de ça pendant qu'il imprime. On parle beaucoup de chiens. Je dis beaucoup le mot chien, mais le chien sur l'espace public, c'est un truc aussi qui me fait un peu marrer, où je fais des projets là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est que même les gens avec qui je collabore, ben, du coup, je suis en phase avec, quoi.
Pour finir cet épisode, est-ce que tu peux nous dire, au regard de ton travail que tu fais en tant qu'illustratrice, en épigraphiste et de ton travail perso, qu'est-ce qui te rend le plus fier?
Je sais pas du tout. En fait, je crois que je suis contente du lien social que ça me procure. Ça paraît bizarre parce que tu te dis quand même c'est un métier très solitaire, mais j'aime bien faire les marchés. Les gens, ils aiment pas trop les marchés en général, mais moi j'aime bien. C'était l'époque des marchés de Noël. Ouais. À la rencontre des gens, proposer ce que tu fais et voir leur réaction, ça m'a fait trop rire. Le week-end dernier, d'avoir une nana qui arrive qui fait « Ah, je savais que t'étais là, du coup je suis venue !» Et finalement, avec ce que je propose, ben, par exemple, je fais des packs de stickers sur Tanaland. Ça, c'est parce ouais. qu'une copine m'a demandé de faire un truc pour un EVJF. Donc vraiment. Après, elle m'a payé, hein, c'était sympa. Mais du coup, il y a ces échanges-là aussi avec les personnes, se dire « Ah, ça j'aime bien, bon là, tu vois, j'ai fait des t-shirts Xena et Charn. » Bah, où sont les Buffy? Ok, bon, faut faire les Buffy maintenant. Du coup, c'est cette partie-là qui me fait marrer parce que ouais, c'est le lien social que tu peux trouver dans l'illustration qui me fait un peu kiffer.
Ouais, puis tu vois, c'est ce qu'on disait, comme tu as aussi une démarche qui est assez engagée, tu sens que tu connectes peut-être plus facilement avec ton public, quoi.
Bah, c'est sûr que les masculins, ils vont pas m'acheter des trucs. Je pense. Ou alors, ils vont venir me faire chier, comme il y en a un qui est venu un jour me faire chier. Et il avait perdu. Pas de bol.
Mais tu sens, par exemple, qu'il y a des femmes qui t'achètent des choses, que ce soit des stickers, des t-shirts, tout ça, et que tu sens voilà, que les messages que tu portes dessus, c'est... Enfin, tu vois, ça les... Je peux pas dire si ça les rend contentes, mais voilà, qu'ils se sentent aussi représentés, quoi.
Oui, et puis, comme je disais, ça reste un sticker, mais tu le mets sur ta gourde, tu vas courir, tu vas au taf. Des fois aussi, sans parler, il y a des gens qui se disent « Ah ouais, ok, elle, faut pas la faire chier à cet endroit. » Donc j'y vois un peu des fois comme des petites amulettes, en mode... Moi, des fois, avant, j'avais un gros mise en bricolage sur mon téléphone, et quand je voyais des mecs qui parlaient... qui me saoulait un peu, je retournais juste mon téléphone. Et il faisait « Ah, oups !» Et du coup, là, t'as même pas besoin d'avoir toute cette charge mentale de parler. Donc, bon, bientôt les banderoles, bientôt les montgolfières, mes andrées.
Et bien, merci Anaïs.
Enfin, merci à vous, c'était chouette.
Merci. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur notre site dans la description de cet épisode, rubrique blog, pour découvrir le travail d'Anaïs. Pour nous contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Tract ou celui de Since Nothing en tapant tract.move ou since.nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt.